Section 5. La prédication. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Chapitre 1. Prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Ces paroles directes et vigoureuses tracent clairement le devoir du ministre du Christ. Il lui faut prêcher la parole, non les opinions et les traditions des hommes, des fables séduisantes ou des contes sensationnels, destinés à émouvoir l'imagination et à exciter les émotions. Il ne doit pas se mettre lui-même en valeur, mais sentir que Dieu a les yeux sur lui, et que son devoir est de prêcher la parole à un monde qui se meurt. Il ne doit pas s'exprimer avec légèreté, plaisanter, ou se livrer à des interprétations fantaisistes. Le ministre de l'Évangile doit parler avec sincérité et sérieux, car il est la voix qui expose de la part de Dieu les écrits sacrés. Sa tâche consiste à dire à ses auditeurs les paroles de la vie présente et de celle qui est à venir. Mes frères dans le ministère, tandis que vous vous tenez devant un auditoire, parlez des choses essentielles, de celles qui instruisent. Enseignez les grandes vérités du domaine pratique, celles qui doivent pénétrer dans les vies. Enseignez la puissance salvatrice de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Efforcez-vous de faire comprendre quelle est la puissance de la vérité. Il faut prêcher la parole prophétique, qui est le fondement de la foi des adventistes du septième jour. Qu'on expose soigneusement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, en rapport avec cette déclaration, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le chapitre 24e de Matthieu se présente souvent à mon esprit comme un passage qui devrait retenir l'attention de tous. Nous vivons aujourd'hui au moment même où les prédictions contenues dans ce chapitre s'accomplissent. Que nos prédicateurs expliquent ces prophéties. Qu'ils négligent les sujets de moindre importance et parlent des vérités qui doivent décider de la destinée des âmes. Le temps dans lequel nous vivons exige une vigilance constante et les ministres de Dieu doivent faire la lumière sur la question du sabbat. Il faut que les habitants de ce monde soient avertis que le Christ vient bientôt en puissance et en gloire. Le dernier message d'avertissement au monde doit conduire les hommes à voir l'importance que Dieu attache à l'observation de sa loi. Aussi doit-on souligner cette vérité si clairement qu'aucun transgresseur de la loi n'aura d'excuse s'il manque discerner l'importance des commandements de Dieu. J'ai reçu mission de dire, recueillez dans les Écritures les preuves que Dieu a sanctifié le septième jour et lisez-les dans vos conférences. Que ceux qui n'ont pas entendu la vérité puissent voir que lorsqu'on s'écarte d'un ordre du Seigneur, on subit la conséquence de cette décision. Dans tous les âges, le sabbat a été le témoignage de la loyauté de l'homme envers Dieu, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, a dit le Seigneur. Diplomatie dans les choses sacrées. L'Évangile rencontre maintenant de l'opposition de toutes parts. Jamais encore les forces du mal ne s'étaient à ce point conjurées. Les esprits du mal s'allient aux hommes pour combattre les commandements de Dieu. On place bien au-dessus des Écritures la tradition et le mensonge. La raison et la science passent avant la révélation. Le talent humain a le pas sur l'enseignement de l'esprit. On préfère les formes et les cérémonies à la puissance vitale de la piété. De graves péchés ont séparé les hommes de Dieu. L'infidélité est devenue à la mode. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, tel est le langage des multitudes. La voix des serviteurs de Dieu doit s'élever comme le son de la trompette pour dire au monde ses transgressions. Les beaux sermons si souvent entendus ne font aucune impression durable. Les cœurs des hommes ne sont pas touchés, parce que les vérités pénétrantes de la parole de Dieu ne leur sont pas prêchées. Beaucoup de ceux qui prétendent croire à la vérité diraient, s'ils exprimaient vraiment leurs sentiments, pourquoi est-il besoin de parler si franchement ? Il pourrait aussi bien demander pourquoi Jean-Baptiste disait aux pharisiens, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Pourquoi avait-il besoin de provoquer le courroux d'Hérodia en disant à Hérode qu'il ne lui était pas permis de vivre avec la femme de son frère? Il perdit la vie à cause de sa franchise. Pourquoi donc n'a-t-il pas continué ses pérégrinations sans encourir la colère d'Hérodia? Ainsi les hommes ont argumenté et la diplomatie a pris la place de la fidélité. On ne se permet plus de reprocher aux gens leurs péchés. Quand entendra-t-on à nouveau dans l'Église la voix de la réprobation dire avec fidélité, « Tu es cet homme-là » Si ces paroles n'étaient pas si rares, nous verrions davantage la puissance de Dieu. Les messagers du Seigneur ne devraient pas se plaindre de ce que leurs efforts restent infructueux tant qu'ils ne se repentent pas de leur penchant à approuver tout le monde, de leur désir de plaire aux hommes, ce qui les pousse à taire la vérité et à crier « paix », alors que Dieu n'a pas parlé de paix. Il faudrait que les serviteurs de Dieu comprennent combien leur tâche est sacrée. Leur qualité de messager choisi par Dieu les place dans une position de terrible responsabilité. Marchant sur les traces du Christ, ils doivent être les économes des mystères du ciel, encourageant ceux qui obéissent et avertissant ceux qui désobéissent. La diplomatie mondaine ne doit pas entrer en ligne de compte. Qu'ils ne s'écartent jamais du sentier dans lequel Jésus leur a ordonné de marcher. Qu'ils aillent de l'avant avec foi, se souvenant qu'ils sont entourés d'une nuée de témoins. Ce ne sont pas leurs propres paroles qu'ils doivent dire mais celles que leur a confiées celui qui est plus grand que tous les monarques de la terre. Ainsi a dit le Seigneur, voilà leur message. Dieu a besoin d'hommes qui, comme Nathan, Élie et Jean, porteront son message sans crainte, sans se soucier des conséquences, qui diront la vérité, même s'ils doivent pour cela faire le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Comme des flèches acérées. Les paroles du Christ étaient comme des flèches acérées qui allaient au but et perçaient le cœur de ses auditeurs. Chaque fois qu'il s'adressait aux hommes, que l'assistance fût petite ou grande, ses paroles avaient pour résultat d'en sauver quelques-uns. Aucun des messages qui tombaient de ses lèvres ne fut perdu. Chacune de ses paroles mettait une nouvelle responsabilité sur les épaules de ceux qui les entendaient. De même, aujourd'hui, les prédicateurs qui, en toute sincérité, apportent au monde le dernier message de miséricorde en s'appuyant sur Dieu pour recevoir sa force, ne doivent pas craindre que leurs efforts soient vains. Bien qu'aucun œil humain ne puisse voir le chemin par lequel la vérité atteint les cœurs, qui peut dire que la flèche n'est pas allée au but ? Bien qu'aucune oreille humaine ne puisse entendre le cri de l'âme blessée, cependant la vérité, silencieusement, a frappé. Dieu a parlé aux âmes et au jour du jugement dernier, ses fidèles serviteurs se tiendront avec les trophées de la grâce rédemptrice, pour rendre gloire au Christ. Personne ne peut estimer le préjudice porté aux âmes lorsqu'on essaie de prêcher sans l'onction du Saint-Esprit. Il en est qui hésitent, qui sont presque décidés à se donner entièrement à Dieu. Mais trop souvent le prédicateur n'a pas l'esprit et la puissance du message et il n'adresse pas à l'auditoire les appels qui emporteraient la décision, qui feraient pencher du bon côté le plateau de la balance. En cette époque de ténèbres morales, il faut autre chose qu'une sèche théorie pour émouvoir les âmes. Il faut au prédicateur une communion vivante avec Dieu. Il doit prêcher en donnant l'impression qu'il croit vraiment ce qu'il dit. Les vérités vivantes qui tombent des lèvres d'un homme de Dieu, feront trembler les pécheurs et ils s'écrieront, « L'Éternel est mon Dieu, je suis décidé à me placer entièrement du côté du Seigneur. » Le messager de Dieu ne doit jamais cesser de rechercher plus de lumière et de puissance. Il faut qu'il peine, prie, espère sans cesse, au milieu du découragement et des ténèbres, décider qu'il est à acquérir une connaissance sérieuse des Écritures et à ne pas rester en arrière lorsqu'il s'agit de recevoir les dons du Seigneur. Aussi longtemps qu'il y a une âme qui nécessite ses soins, il devrait aller de l'avant avec, à chaque pas, un nouveau courage. Aussi longtemps que Jésus dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point », aussi longtemps que la couronne de justice est offerte au vainqueur, aussi longtemps que notre avocat plaide en faveur du pécheur, les ministres du Christ devraient travailler avec une énergie inlassable, plein d'espoir et de foi persévérante. Ceux qui assument la responsabilité d'apporter au monde la parole de Dieu sont comptables de l'influence qu'ils exercent sur leurs auditeurs. S'ils sont fidèles, ils sauront que prêcher n'est pas divertir. Ce n'est pas davantage transmettre simplement des informations ou convaincre les esprits. La prédication de la parole s'adresse à l'intelligence et communique des connaissances, mais, pour être efficace, il faut qu'elle atteigne les cœurs. C'est pourquoi le prédicateur ne doit pas raconter des histoires destinées à amuser, mais s'efforcer de comprendre ce dont les âmes ont le plus besoin. Tandis qu'il se tient devant son auditoire, qu'il se souvienne qu'il en est parmi ses auditeurs qui sont aux prises avec le doute, peut-être même avec le désespoir, alors que d'autres, sans cesse assaillis par la tentation, mènent un dur combat avec l'adversaire de leur âme. Qu'il demande donc au Sauveur de lui dicter les paroles qui soutiendront les âmes dans ce conflit avec le malin.